vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu The Legend of Zelda Skyward Sword, la version HD. On aura ensuite un petit point sur les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news concernant le jeu Back 4 Blood. On aura ensuite une petite news technologie avec Bandai et Disney qui dévoilent un adorable Tamagotchi R2-D2. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le jeu The Legend of Zelda Skyward Sword HD ou Zelda no Densetsu Skyward Sword en japonais. Littéralement, la légende de Zelda, l'épée céleste. Donc c'est un jeu vidéo d'action-aventure jouable en solo qui a été réalisé par Hidemaru Fujibayashi, scénarisé par Hidemaru Fujibayashi et Naoki Mori, avec la superbe musique que vous entendez de Hajime Wakai, Koji Kondo, Maito Yokota et Chiyo Fuji. Le jeu a été produit par Eiji Aonuma, développé par Nintendo EAD et Monolith Soft, et édité par Nintendo à la base pour la Wii. Donc il s'agit du 13e opus de la série The Legend of Zelda, annoncé par Shigeru Miyamoto lors d'une conférence privée pendant le salon de l'E3 2009. Le jeu est sorti le 18 novembre 2011 en Europe, le 20 novembre 2011 en Amérique du Nord et le 23 novembre 2011 au Japon, donc sur la Wii. Le 1er septembre 2016, le jeu est disponible sur le Nintendo eShop de la Wii U et un remaster intitulé The Legend of Zelda Skyward Sword HD est sorti sur Nintendo Switch le 16 juillet 2021, proposant quelques améliorations graphiques, de contenu et de gameplay. Un amiibo est également proposé à la vente lors de sa sortie, donc avec Zelda et son célestrier. Voilà. The Legend of Zelda Skyward Sword est un jeu dans lequel vous incarnez l'icône de la série, Link, qui doit bien évidemment sauver la princesse Zelda. Voler à dos de célestriers et combattre des forces maléfiques grâce à une multitude d'objets améliorables. Le jeu est classé PEGI 12 et il obtient une note de 16 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 7 sur 10 de la part de Gamekult. Alors que de nombreux fans attendaient une collection anniversaire des opus 3D sur Nintendo Switch pour fêter les 35 ans de Zelda, Nintendo aura sorti The Legend of Zelda Skyward Sword de son fourreau. Cet épisode, qui n'est pas forcément le plus populaire de la licence, bénéficie donc d'un portage HD, mais en a-t-il plus sous le capot ? Réveillé en plein cauchemar par un célestrier, sorte de gros oiseau que son peuple utilise comme monture pour fendre les cieux, Link doit se hâter de se préparer. La 25e cérémonie de la chevauchée céleste s'apprête à débuter. Cette épreuve de vol oppose Link au Loubar de Célestbourg, la ville natale de notre héros. Sortant vainqueur de cette épreuve, Link a le privilège de recevoir un parachal confectionné par Zelda en guise de récompense. Cet objet lui permet d'atterrir de n'importe quelle hauteur sans problème. Pour célébrer la victoire de son ami, Zelda l'emmène se balader dans les cieux, l'occasion pour le joueur de découvrir la mer de nuages qui s'étend à perte de vue. Au-dessus de ces nuages flottent des îlots, dont la bourgade d'où viennent nos deux héros. Nul ne sait ce qui se cache en dessous des nuages, mais Link ne va pas tarder à le découvrir. Alors qu'elle s'apprêtait à lui déclarer sa flamme, Zelda est happé par une tornade qui l'aspire loin de lui. À peine remis de cette mésaventure, Link met tout en œuvre pour la retrouver. Je ne vous en dirai pas plus sur le scénario pour conserver la surprise à ceux qui découvriront l'aventure avec cette version HD. Cependant, il paraît essentiel de noter que les premières heures sont plutôt fastidieuses. L'histoire prend en effet quelques heures à décoller et le souffle épique de la saga met du temps à se faire sentir. On dirait bien que Nintendo est au courant car plusieurs changements ont été opérés pour fluidifier l'aventure. Une fois son rythme de croisière atteint, l'aventure gagne en ampleur et alterne entre excellents donjons et scènes mémorables. Donc pour rappel, le Skyward Sword original a été intégralement pensé pour la Wiimote et le Wii Motion Plus. Pour l'occasion, et comme pour la version Wii de Twilight Princess, Link est devenu droitier, sa main suit le moindre mouvement de votre manette et il est donc possible de frapper selon 4 axes différents. Cette maniabilité est bien évidemment encore de la partie lorsque l'on joue au Joy-Con, le tout ayant semblé plus fiable qu'auparavant. S'il faut toujours recalibrer le capteur de mouvement en appuyant sur Y de temps en temps, il est plutôt rare qu'un coup ne parte pas dans la direction voulue et ce même si l'on contorsionne son poignet dans tous les sens. Si l'on devait chipoter, on retiendrait peut-être une latence un brin trop prononcée, mais les ennemis ouvrant leur garde pendant de longues secondes, cela n'a pas d'impact négatif sur le gameplay. Ces contrôles basés sur la reconnaissance de mouvement fonctionnent donc mieux qu'à l'époque. Cerise sur le gâteau, il est désormais possible de contrôler la caméra avec le stick droit. Alors oui, ça paraît bête dit ainsi, mais ce n'était pas le cas à l'époque, car la Wiimote ne disposait pas de stick analogique, hormis celui du Nunchuck qui était assigné au déplacement. Donc c'est bien beau tout ça, mais comment fait-on pour jouer en portable ou sur une Switch Lite dénouée de contrôle amovible ? Donc un second schéma de contrôle a été pensé pour ce cas de figure. Ce dernier limite le motion gaming à la visée gyroscopique facultative. Vous comprenez par là que si vous le désirez, vous pouvez activer une option vous permettant de bouger votre manette ou votre console pour affiner votre visée. Pour le reste, l'intégralité des commandes est assignée au bouton, tandis que les mouvements de Joy-Con sont remplacés par des mouvements de stick. C'est simple, une fois votre épée dégainée, il vous suffit de baisser le stick droit d'un coup sec vers le bas pour frapper en bas. Les stocks, lui, s'effectuent en cliquant sur le stick. Cela fonctionne pour toutes les directions et pour tous les objets nécessitant des mouvements. Ainsi, le lasso, le filet à papillon ou les lancers de bombes fonctionnent de la même manière. Une fois les contrôles assimilés, il faut avouer que le tout est efficace et se contrôle étonnamment bien. Seul regret, l'épée et le maniement des objets étant assignés au stick droit, il est impossible de contrôler la caméra simplement en orientant le stick analogique. Pour déplacer la caméra, il faut donc maintenir la touche L appuyée avant de déplacer le stick dans la direction voulue. On finit par s'y faire, mais il n'est pas rare d'asséner un coup d'épée en voulant regarder sur le côté. Ce n'est pas forcément toujours intuitif. D'ailleurs, déplacer la caméra dans ce mode affichera l'icône dédiée à la vue subjective, ce qui est une erreur étant donné que la caméra est placée à la troisième personne. L'inventaire souffre également d'un problème d'ergonomie et se voit assigné à la même touche que la visée. On s'emberlificote facilement et par moments on sent que Skyward Sword accuse son âge d'un point de vue ergonomique. Sans être rédhibitoire, ces griefs brisent parfois l'immersion lorsque l'on joue en portable ou à la manette pro. Donc à vous de déterminer quel schéma correspond le mieux à votre style de jeu. Gardez cependant en tête que les contrôles au motion gaming sont tout de même un poil moins précis par nature et que la gestion de caméra en mode bouton est parfois fastidieuse. Toutefois, n'ayez crainte car votre choix ne sera absolument pas définitif. Définitif, il vous suffira de faire un petit tour dans les menus pour que les contrôles s'adaptent à la volée. Venons-en maintenant à un des points essentiels de n'importe quel portage HD, la technique. Donc s'il est clair que nous avons affaire à un titre qui s'apprête à souffler sa 10e bougie, Skyward Sword HD affiche un rendu loin d'être honteux. La mise à jour graphique est flagrante, surtout quand on prend en compte que l'épisode original tournait en 480p. La bouillie de pixels aliasée laisse donc place à un rendu bien plus net et confortable, autant en portable qu'en docké. On peut donc pleinement apprécier la très bonne direction artistique de cet épisode et ses couleurs chatoyantes. Si cette direction artistique plus chargée que celle d'un Wind Waker rend de facto les années moins clémentes avec le titre, une fois porté en HD, le tout fonctionne encore à merveille. On regrette que les textures d'époque restent très floues, même si l'aspect aquarellé de l'ensemble parvient à atténuer ce grief. De leur côté, les modèles 3D font plaisir à voir et n'ont vraiment pas à rougir de leur grand âge. On leur compte assez peu d'aspérité et il est clair que le gain de résolution a fait le plus grand bien. Zelda, Link et son célestrier sont plus charismatiques que jamais et font vite oublier les textures qui manquent de finesse. Évidemment et fort heureusement, le tout tourne en 60 FPS constant en toutes circonstances. Bref, 10 ans plus tard et malgré les quelques retards techniques qu'il traîne derrière lui, Skyward Sword parvient toujours à enchanter. Ces ajouts permettent d'apprécier Skyward Sword dans de très bonnes conditions, mais ce qui change vraiment la donne pour qui a touché au jeu d'origine, ce sont les modifications apportées aux boîtes de dialogue et à la fameuse Fae, l'entité accompagnant le héros. Dans le Skyward Sword de 2011, le joueur était constamment assailli d'informations et de tutoriels. Ramasser un rubis ou un papillon était synonyme d'interruption et d'explications en tout genre. Tous les 100 mètres, Fae venait également nous donner des informations sur les lieux parcourus ou nous indiquer la marche à suivre sans qu'on l'ait sollicité. À coup de... C'est désormais de l'histoire ancienne car les boîtes de dialogue lors de la récupération d'objets ne se répètent plus et les interactions de Fae sont réduites au strict minimum. Dieu merci. Vous pouvez cependant lui demander de l'aide quand bon vous semble, en cas de galère. Il est également possible d'accélérer les dialogues et de passer les cinématiques. Un plus qui est toujours bienvenu. Ces changements n'ont l'air de rien, mais au contraire, ils rendent Skyward Sword beaucoup plus agréable à jouer. Le rythme en est positivement affecté et on a bien plus l'impression de partir à l'aventure plutôt que de suivre les directives d'un PNJ. Cette version HD offre une expérience plus fluide et plus plaisante que la version d'origine par ses simples modifications. C'est dire à quel point les boîtes de dialogue du Skyward Sword de 2011 étaient vraiment très intrusives. Ces modifications mineures en apparence sont donc finalement celles qui font le plus de bien à cette aventure, un pur plaisir. Pour le reste, Skyward Sword HD est identique au jeu d'origine et alterne phases narratives, combats et donjons. Si on regrette toujours que le monde dans le ciel se limite au pilotage de notre Célestrier, à quelques îlots et à Célesbourg, il est difficile de bouder son plaisir face à l'excellence des donjons qui n'ont pas pris une ride. Car si en termes d'ergonomie et de fidélité visuelle cet épisode accuse son âge, il n'en est rien de ses puzzles. Particulièrement agréable à résoudre, les énigmes font sens et exploitent intelligemment les équipements de Link et le motion gaming. Et s'il fait revisiter régulièrement des lieux déjà parcourus par le joueur, il en révèle une zone cachée gigantesque, encore mieux pensée que celle d'origine. Le scénario, bien que très lent à démarrer, prend de l'ampleur et revient aux origines de la série pour notre plus grand plaisir. Il finit d'ailleurs par proposer des moments d'anthologie auxquels aucun fan de la licence ne peut rester insensible. Les combats prennent une dimension puzzle plus marquée en demandant aux joueurs de frapper dans la bonne direction pour briser la garde d'un ennemi ou contourner son bouclier. La bande originale est, comme on en a l'habitude avec la licence, absolument fantastique. Toutes les pièces d'équipement sont améliorables grâce à un système de craft sympathique, la jauge d'endurance fait son apparition, et le parachal marque les prémices de la paravoile de Breath of the Wild. En bref, s'il est vendu à un tarif prohibitif, Skyward Sword HD n'en reste pas moins la meilleure version du titre. Les nouveaux venus apprécieront les visuels rehaussés et le choix offert entre les contrôles au bouton et le motion gaming. Les vieux de la vieille ayant déjà chevauché au-dessus de la mer de nuages ne pourront qu'apprécier les modifications apportées au dialogue et à Faye. L'aventure en devient bien plus rythmée et laisse le joueur vagabonder à sa guise, un vrai plaisir. Cette version n'offre peut-être pas de remaniement intégral ou de gap graphique phénoménal, mais modifie ce qui en avait le plus besoin. Il en résulte un jeu particulièrement agréable à parcourir qui n'a jamais été aussi bon. Donc pour résumer les points forts, on a une aventure toujours aussi enchanteresse qui prend toute son ampleur dans sa deuxième partie, des donjons fantastiques et des puzzles bien pensés, plusieurs moments d'anthologie, la bande originale qui est sublime, des contrôles en motion gaming qui gagnent en précision et qui offrent une gestion intégrale de la caméra, la possibilité de faire l'entièreté du jeu au bouton et non au motion gaming, une direction artistique qui profite du lifting graphique, un jeu beaucoup moins bavard et intrusif que le jeu d'origine et donc bien mieux rythmé, et manier l'épée comme un bretteur, c'est quand même très chouette. Les points faibles, on a les trois premières heures qui restent laborieuses, une gestion de la caméra peu instinctive lorsque l'on joue en mode bouton, quelques soucis d'ergonomie et des textures qui accusent le poids des années. Voilà. Et du coup, comme je suis une grande fan de Guillerahim, on va pouvoir s'écouter tout de suite la musique Combat contre Guillerahim 1, la phase 1, extraite de l'OST du jeu de The Legend of Zelda Skyward Sword HD, une musique qui a été composée par Hajime Wakai, Koji Kondo, Maito Yokota et Shio Fuji, et on revient juste après. Thank you. Voilà, donc c'était la musique du combat contre Ghirahim, le premier combat à la phase 1, une musique extraite de l'OST du jeu The Legend of Zelda Skyward Sword HD, qui a été composée par Hajime Wakai, Koji Kondo, Maito Yokota et Shio Fuji. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place c'est Super Mario 3D World plus Bowser's Fury sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 3ème place c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 1ère place F1 2021 sur PS4, un jeu d'Electronic Arts. Et enfin, en 1ère place, c'est The Legend of Zelda Skyward Sword HD sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en 3ème place Spider-Man Miles Morales, en 2ème place c'est Ratchet & Clank Rift Apart, et en 1ère place F1 2021. Pour la Xbox Series, on a en 3ème place Necromunda Hired Gun, en 2ème place Assassin's Creed Valhalla, et en 1ère place F1 2021. Pour la PS4, on a en 3ème place GTA V l'édition Premium, en 2ème place FIFA 21, et en 1ère place F1 2021. Pour la Xbox One, on a en 3ème place Forza Horizon 4, en 2ème place GTA V l'édition Premium et en 1ère place FIFA 21. Le top 3 pour la Nintendo 3DS, on a en 3ème place The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, en 2ème place Luigi's Mansion 2 Select et en 1ère place Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Select. Le dernier top, c'est le top 3 PC avec en 3ème place les Sims 4 l'édition standard, en 2ème place F1 2021 et en 1ère place les Sims 4 Vie à la campagne. On passe maintenant à la news de jeux vidéo. Donc non, la formule mettant en jeu 4 survivants d'une épidémie de zombies et lui confiant la mission de se faufiler à travers des hordes d'infectés n'est pas nouvelle et elle a même été déclinée à outrance depuis l'apparition de Left 4 Dead. Et pourtant, Turtle Rock Studios, responsable de ce dernier, revient avec une recette qu'il connaît bien, avec Back 4 Blood, recette qui repose clairement sur les bases du titre culte, en tentant d'y apporter un peu de fraîcheur. Donc après quelques heures de test du mode PVE, on constate que Back 4 Blood ne cherche pas à réinventer la roue avec son principe. Donc on a 4 joueurs qui doivent rejoindre une zone sécurisée en se frayant un chemin à travers des cartes infestées de zombies. Cependant, le titre propose quelques petites nouveautés, à commencer par le deck building. Vous pourrez en effet, à chaque début de chapitre, choisir une carte parmi plusieurs, une carte qui vous octroiera un léger avantage pour la session de jeu à venir. Qu'il s'agisse d'un boost d'endurance, de soins ou d'une capacité vous permettant d'obtenir un talent utile à toute votre équipe, les cartes de Back 4 Blood devraient avoir un impact direct sur le déroulement de votre partie. Donc cet aspect, tout comme l'imprévisibilité de l'apparition des zombies, pourrait garantir à Back 4 Blood une solide rejouabilité, à plus forte raison que les sensations en jeu, toutes familières soient-elles, sont bonnes. Donc certes, il faudra encore jouer au PVP et voir si les cartes ont un véritable impact sur la durée et si elles savent varier les plaisirs, mais en l'état, Back 4 Blood semble être sur de bons rails pour offrir une expérience solide, à défaut d'être vraiment originale. On passe maintenant à la news technologie. Qui n'a jamais rêvé d'avoir son propre R2-D2? Eh bien, cela sera bientôt possible. En effet, Bandai et Disney ont dévoilé un Tamagotchi R2-D2. Donc il n'y a pas de doute que les fans les plus nostalgiques seront ravis. Bandai et Lucasfilm Disney ont travaillé en étroite collaboration pour offrir une édition spéciale d'un magnifique Tamagotchi R2-D2. Donc bien entendu, et comme pour tous les Tamagotchi, il faudra prendre soin du petit robot. Donc vous pourrez charger sa batterie, le nettoyer, etc. Mais il y aura aussi quelques petites choses en plus. En effet, l'heureux propriétaire de ce Tamagotchi pourra aussi faire de nombreux mini-jeux en compagnie de R2-D2. Ces mini-jeux changeront selon la croissance de votre R2-D2 et d'autres personnages s'inviteront aussi, 14 exactement, dont Yoda, C3PO, etc. Bandai sortira donc 2 versions de ce Tamagotchi, une version dite normale avec une coque blanche et une version holographique avec une coque bleue transparente, qui n'est pas sans nous rappeler les hologrammes dans Star Wars. Donc si ça vous intéresse, il faudra compter environ 20 euros pour ce Tamagotchi, donc qui est vendu au Japon à 2530 yens, et qui sortira le 13 novembre prochain. Voilà, on va finir maintenant l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on aura des sorties mardi 10 août. Alors attention, parce que ça, il y a toujours plein de jeux de simulation, mais là j'ai été très surprise de voir qu'il y avait un simulateur de tonte de pelouse. Voilà, donc si pour ceux qui rêvent de tondre la pelouse sur leur console, voilà, vous aurez Lawn Mowing Simulator qui sortira sur PC et Xbox Series. On aura également Black Book sur PC, Nintendo Switch et PS4, et Button City qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour mercredi 11 août, on aura la sortie de Glitch Punk sur PC et Free City sur PC, PS5 et Xbox Series. Et les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 12 août avec Naraka Blade Point sur PC et PS5, Faraday Protocol sur PC, Xbox Series et Nintendo Switch, Foreclosed sur PC, PS5 et Xbox Series, Fire Tonight sur PC, Nintendo Switch et Mac, et enfin on aura Seeker My Shadow qui sortira sur PC.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour notre émission Asian Bubble, que vous retrouverez lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.